Vous écoutez, on lit pour vous.
Hausse des cas de cancer du col de l'utérus, car ils sont détectés trop tard. Un texte de Catherine Desautels de la presse canadienne, paru le 24 janvier 2025 dans Le Devoir. Les plus récentes données canadiennes montrent que le cancer du col de l'utérus est maintenant celui dont l'incidence augmente le plus rapidement chez les femmes. Le dépistage demeure la meilleure façon de prévenir ce cancer, qui est évitable lorsque détecté au stade précancéreux. Après avoir diminué pendant 3 décennies, l'incidence du cancer du col de l'utérus a augmenté de 3,7% par année entre 2015 et 2019, selon la Société canadienne du cancer, SCC. Il s'agit de la première augmentation d'importance depuis 1984. La SCC estime que 1 600 Canadiennes recevront un diagnostic de cancer du col de l'utérus dans une année et que 400 en mourront. Ils sont souvent trouvés trop tardivement, déplore la gynécologue Céline Bouchard. Il y a de plus en plus de cas et les cas sont plus avancés, constate-t-elle. Et c'est dommage. Quand on sait que ça se guérit quand c'est un pré-cancer, ça se traite facilement. Avec la vaccination et le dépistage, il serait possible de pratiquement éradiquer le cancer du col de l'utérus. Il est le 3e cancer en importance chez les femmes de 40 à 44 ans, a indiqué la gynécologue. C'est dommage parce que c'est le seul cancer qui se prévient. Les autres, ils ne se préviennent pas, souligne-t-elle, précisant qu'il est quand même possible d'agir sur des facteurs de risque comme le tabagisme pour les autres cancers. De plus, les coûts pour la société augmentent aussi lorsqu'il est détecté trop tard, entre autres pour des traitements de radiothérapie, chimiothérapie et des chirurgies invasives. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la hausse des cas du cancer du col de l'utérus, selon Dr. Bouchard. D'abord parce que beaucoup de Québécoises n'ont pas accès à un médecin de famille qui va assurer un suivi de la fréquence du dépistage. Aussi, il n'existe pas de registre. Les femmes ne reçoivent pas de lettres comme pour le cancer du sein, se désole Dr. Bouchard. Ça va faire 40 ans que les gynécologues demandent au ministère de la Santé de faire un registre des patientes et d'envoyer des lettres. Comment voulez-vous que les gens se souviennent quand ils ont eu leur test de dépistage quand ça va être aux 5 ans? Déjà aux 3 ans, ils ne s'en souviennent à peu près jamais. Ce n'est pas facile de retenir tout ça. Contrairement au PAP test, qui doit être effectué aux 2 ou 3 ans, le nouveau test VPH sera effectué tous les 5 ans. Abandon du PAP test trop lent. En mai 2022, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonçait que le test VPH serait implanté comme test de dépistage primaire du cancer du col de l'utérus, suivant les recommandations de l'INES. Le test VPH est beaucoup plus précis que le PAP test, souligne Dr. Bouchard. C'est relativement la même procédure pour la patiente, c'est-à-dire que la gynécologue passe sur le col de l'utérus avec un instrument pour récolter des cellules. Avec le test VPH, l'échantillon est mis dans un liquide qui sera analysé. Si le test est positif, le même prélèvement peut servir à l'examen de suivi des cellules. Cela permet de détecter la présence de VPH à haut risque qui peuvent mener au développement de lésions précancéreuses et, si elles ne sont pas traitées, mener au cancer du col de l'utérus. Selon le site web du ministère de la Santé, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, Chaudière-Appalaches et Lanaudière sont les seules régions à offrir le test VPH. Le ministre nous a annoncé ça en 2022 qu'on transférerait au test VPH. Mais à l'heure actuelle, il y a seulement 4 régions qui ont converti au test VPH. Ce sont les régions les moins peuplées, déplore Dr. Bouchard. Avec le test VPH, on ne perd pas de cas qui seraient positifs et qui ne seraient pas détectés avec le PAP test. Il permet de détecter 14 types précancéreux. C'est le meilleur test à avoir, souligne la docteure. En juin 2024, le ministère de la Santé a fait savoir dans une réponse écrite à la presse canadienne que l'objectif est toujours de remplacer le test PAP par le test VPH dans toutes les régions du Québec d'ici 2026. Il a donné comme explication au délai du déploiement que le nouveau test exige l'acquisition et l'installation d'équipements spécifiques. C'était « Hausse des cas de cancer du col de l'utérus, car ils sont détectés trop tard ». Un texte de Catherine Desautels de la presse canadienne paru le 24 janvier 2025 dans Le Devoir.
Combien paieriez-vous pour sauver Pitou? Un texte d'Hugo Dumas paru le 23 janvier 2025 dans la presse. C'est une question hyper taboue que peu de propriétaires d'animaux abordent ouvertement de peur de subir l'opprobre. À partir de quel montant informeriez-vous le vétérinaire que non, c'est terminé, je n'ai pas les moyens financiers ou je refuse de payer cette somme mirobolante, c'est fini. Il faudra laisser partir mon pitou adoré. Juste à y penser, un gros malaise s'installe. En théorie, la vie d'un compagnon de vie poilu n'a pas de prix. En pratique, oui. Dans un souper juste assez arrosé, j'ai posé cette question interdite à des amis qui vivent tous avec d'adorables toutous et qui bouclent bien leur fin de mois. C'est un détail à ne pas négliger dans ce débat. Résultat de ce sondage non scientifique? Une facture en bas de 5 000 $ passe encore, surtout pour un jeune animal qui a encore de belles années à japper devant lui. Mais c'est le seuil psychologique à ne pas franchir. Après, c'est l'euthanasie. Il faut nommer les choses. Autour de la table, un des convives avait récemment allongé près de 15 000 $ pour financer une délicate opération chirurgicale qui a sauvé la vie de sa chienne vieillissante. Oui, il a été jugé. Cibole, c'est quasiment le prix d'une Mitsubishi Mirage flambant neuve. En même temps, c'est son argent. Il le dépense à sa guise et il n'était pas prêt à dire au revoir à sa petite bête chérie. Mon chien, mon choix. Les tarifs dans les cliniques vétérinaires explosent depuis quelques années, rappelle l'émission Enquête dans un épisode percutant. À la SPCA de Montréal, un animal sur 6 a été abandonné pour des raisons médicales et financières. Comprendre? Leurs propriétaires manquent d'argent pour les soigner. La tête ne connecte pas avec le cœur quand notre bébé d'amour souffre et qu'on débarque, en panique extrême, dans un centre vétérinaire d'urgence. Faites tous les tests, ça coûtera ce que ça coûtera. Gardez-le en vie. Et si les soins de Pitou et Minou grugent une part du budget encore plus importante qu'avant, c'est que 20% des cliniques vétérinaires familiales au Canada ont été rachetées par des multinationales, révèle le reportage d'enquête. Ces grandes enseignes, qui opèrent en toute discrétion, imposent des indicateurs de performance aux vétérinaires sur la nourriture vendue en clinique, sur les hospitalisations enregistrées et sur le nombre d'interventions chirurgicales pratiquées. Bref, il y a des quotas à remplir, comme avec les contraventions pour les policiers. Concrètement, ces mesures d'efficacité se traduisent par plus de tests sanguins, de radiographies ou de scans inutiles ou non nécessaires. Ça me rappelle mon ancien vétérinaire qui m'avait fortement conseillé de consulter un oncologue canin pour examiner les verrues de mon vieux carlin. Excusez, pardon. Quand j'ai refusé, il m'a regardé avec mépris, comme si j'avais assassiné mon propre chien devant lui. Bonjour, la culpabilité. Je l'ai flushé. Le vétérinaire, bien sûr. Pas mon beau Pog. La journaliste d'enquête, Annie Hudon-Frisseau, expose qu'une clinique de quartier a récemment gonflé ses tarifs de 80 % quand elle est passée dans le giron d'une grande société internationale. Pour les mêmes services donnés par les mêmes employés, la facture a pratiquement doublé. Honnêtement, c'est indécent. Sous le couvert de l'anonymat, des vétérinaires dénoncent l'arrivée des grandes enseignes commerciales qui ne pensent qu'au fric au détriment du bien-être des animaux. Au Québec, deux de ces géants ont mis la patte sur un total de 136 cliniques, sans nécessairement l'afficher clairement. Pour en conserver l'aspect chaleureux et convivial, les fonds d'investissement n'ajoutent pas automatiquement leur nom à la marquise du commerce. Ainsi, vous pensez encourager l'entreprise de deux gentils vétérinaires du coin. Vous faites finalement affaire avec une méga-société enregistrée en Suède qui plonge les mains directement dans votre portefeuille. Toujours dans le domaine animalo-financier, la facture a dévoilé récemment une astuce pour adoucir sa facture chez le vétérinaire. Acheter les médicaments de son compagnon à quatre pattes directement à la pharmacie. Si, si. Chez Jean Coutu, chez Pharmaprix, peu importe. J'ai eu un chien pendant plus de 10 ans et je n'ai jamais songé à cette option. En fait, je ne savais même pas que c'était possible. Selon la facture, un médicament canin anti-épileptique se détaille 160 $ par mois en clinique. C'est très cher. En pharmacie, le prix de la même molécule oscille entre 57 $ et 71 $. Plus de 2 fois moins cher. On peut également acheter des pilules identiques sur les sites de pharmacie ontarienne en ligne comme Pet Drug Mart, qui accepte les ordonnances du Québec. Une information bonne à savoir. Évidemment qu'on les aime, nos charmantes petites bêtes. On les dorlote, on les bichonne, on les cajole et on les traite comme des membres de notre famille, ce qu'elles sont. On les adore, c'est indéniable. Mais on aimerait aussi qu'il reste des fonds dans nos REER rendus à la retraite. La question du départ, cruelle, reste irrésolue. Jusqu'où sommes-nous prêts à nous endetter pour les garder en bonne santé? C'était « Combien paieriez-vous pour sauver Pitou ?» un texte d'Hugo Dumas paru le 23 janvier 2025 dans La Presse.
Les unions, quand ça donne? Un texte d'Isabelle Haché paru le 28 janvier 2025 dans La Presse. Sur les écrans de l'entrepôt Amazon de la Chine, le message était diffusé en boucle, histoire de s'assurer que tous les travailleurs le voient bien, même ceux qui emballent des colis à une cadence folle, même ceux qui pissent dans des bouteilles parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller aux toilettes. Les syndicats ne peuvent pas garantir les changements en milieu de travail. En bon québécois, on aurait écrit « Les unions, ça donne rien ». Sur ces écrans, Amazon diffusait d'autres messages à la même sauce anti-syndicale comme « Les syndicats vous facturent des cotisations » ou encore « Une carte syndicale est un document juridique ». Amazon a été réprimandé par le Tribunal administratif du travail à l'été 2024. Avec des messages de ce genre, l'entreprise américaine cherchait manifestement à faire peur aux 300 employés de l'entrepôt de la Chine, pour la plupart des immigrants au statut précaire. La réponse d'Amazon? Contrairement à ce que concluait le tribunal, les messages n'étaient pas destinés à cultiver la méfiance des travailleurs à l'égard du syndicat. Il s'agissait de simples communications factuelles. Bien sûr. Après ça, il s'en trouve encore pour croire Amazon lorsqu'elle prétend fermer ses entrepôts au Québec à la suite d'une banale révision de ses opérations. La décision de cette multinationale notoirement anti-syndicale n'aurait rien à voir avec la syndicalisation d'un entrepôt de Laval, une première au pays. Mais non, Amazon ne cherche pas à passer un message aux autres travailleurs canadiens qui auraient l'idée saugrenue de se syndiquer dans l'espoir d'avoir des conditions de travail moins pénibles. Pas du tout. Qu'allez-vous donc chercher là? Il s'en trouve également pour reprocher aux employés d'avoir voulu se syndiquer. Le message, c'est bien dommage pour eux, mais ils l'ont tout de même un peu cherché. Si je comprends bien, il n'aurait pas fallu provoquer Amazon. Il aurait fallu la laisser traiter ses employés comme des robots. L'entrepôt de Laval compte 200 employés. L'an dernier, 160 blessures y ont été déclarées. Le problème, c'est que tout va trop vite. Aux États-Unis, d'ailleurs, aucune autre entreprise n'affiche un nombre aussi élevé de blessures par employé. Si ces travailleurs-là n'ont pas besoin d'un syndicat, alors qui? Non, mais c'est vrai, par exemple, quand tu penses à ça, là, les unions, quand ça donne? Ça donne à rien, proclamait Yvon Deschamps dans son célèbre monologue, une dénonciation en règle de l'asservissement de la classe ouvrière québécoise à la fin des années 1960. L'important dans vie, c'est d'avoir une job steady puis un bon boss, ajoutait-il. Enfin, pas lui, mais son personnage de travailleur désespérément naïf et plein d'admiration pour son patron profiteur et sans scrupules. Un demi-siècle plus tard, on baigne dans la même naïveté. Amazon met brutalement 3500 employés québécois à la porte et plutôt que de condamner son geste haut et fort, on préfère blâmer ceux qui ont cherché à améliorer juste un peu leurs conditions de travail. Désespérant, vous dites? D'accord, il s'agit d'une entreprise privée. Rien ne l'empêche de fermer ses entrepôts au Québec. Il reste que, à quelques exceptions près, la réaction de nos dirigeants manque de conviction. Ne pourrait-il pas dénoncer l'attitude d'Amazon avec beaucoup plus de vigueur? Selon le Journal de Montréal, le gouvernement dépense des dizaines de millions pour les services info-nuagiques d'Amazon Web Services. Lorsque cette filiale d'Amazon s'est installée à Varennes, il a offert des rabais d'Hydro-Québec à son énergivore centre de stockage de données. Et puis, différents ministères ont dépensé 2,2 millions de dollars sur Amazon entre 2021 et 2024. Le gouvernement fédéral et les grandes villes du Québec ont aussi dépensé des millions en souris, claviers, chargeurs et autres articles de bureau. Ça représente peut-être des pinottes dans le grand ordre des choses. Mais les gouvernements ne pourraient-ils pas prêcher par l'exemple en cessant de s'approvisionner sur la plateforme d'Amazon? À Coteau-du-Lac, le gouvernement a autorisé le dézonage de terres agricoles parmi les plus fertiles du Québec afin de permettre la construction d'un entrepôt Amazon qui devra fermer après 3 ans d'activité. Si le gouvernement ne peut empêcher Amazon de faire un gigantesque doigt d'honneur aux Québécois, pourrait-il au moins s'engager à cesser de lui accorder des faveurs? Surtout, pourrait-il cesser de faire comme s'il était impossible de vivre sans cette plateforme et sa marchandise? Ça vaut pour tout le monde, bien sûr. Les 3/4 des Québécois ont acheté au moins un produit en ligne depuis 1 an. Sur Amazon, dans la plupart des cas. Il faut le dire, c'est rapide, facile et moins cher qu'ailleurs. Peut-être que c'est trop facile. Peut-être qu'il faudrait se demander, juste avant de cliquer sur « commander », si on en a vraiment besoin. Peut-être aussi qu'avant de cliquer, il faudrait penser aux travailleurs précaires, aux petits commerces qui ferment leurs portes et aux centres-villes qui peinent à survivre. Je sais qu'un boycottage ne changerait pas grand-chose. si tous les Québécois cessaient d'acheter sur la plateforme, ça ne ferait pas un gros pli à Jeff Bezos. Amazon continuera d'engloutir des profits pharaoniques aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde. Ça ne changerait pas grand-chose pour Amazon, mais ça ferait une réelle différence pour les entreprises d'ici. Imaginez si tous les Québécois se remettaient à dépenser chez eux plutôt que d'engraisser le glouton américain. Là-dessus, je vous laisse avec les unions que ça donne d'Yvon Deschamps. Si vous avez 8 minutes, je vous encourage à redécouvrir cette pièce d'anthologie québécoise. Ça n'a malheureusement pas pris une ride. C'était « Les unions que ça donne », un texte d'Isabelle Haché, paru le 28 janvier 2025 dans la presse.
La momie hurlante est-elle morte dans la douleur? Un texte de Natasha Scheidauer, paru le 21 janvier 2025 dans Québec Science. Des chercheuses égyptiennes ont disséqué virtuellement une momie hurlante figée dans une expression d'effroi. Qu'avait-elle à cacher? Embaumée il y a 3500 ans, la momie CIT-8 fait partie de ces momies hurlantes qui intriguent les égyptologues. Hurlant, c'est bien le qualificatif qui s'impose au vu de ces quelques corps retrouvés la bouche figée dans un terrible rictus semblant évoquer la douleur ou l'effroi. Et c'est peut-être le reflet d'une mort violente, selon une étude récente parue cet été dans la revue Frontiers in Medicine. CIT-8 n'est pas la seule à sembler souffrir. En Égypte, on connaît aussi la princesse Meret Amon, décédée peu avant CIT-8, ou encore la momie de l'inconnu E, entreposée au musée égyptien du Caire et datée du règne du pharaon Ramsès III, qui paraît sur les deux douleurs. Voilà qui déchaîne l'imagination et fait couler pas mal d'encre. Ainsi, chaque fois qu'un article scientifique s'attache à trouver une explication à ces étonnantes momies, ses conclusions sont largement relayées dans les médias. Dernière en date, l'étude qui se penche sur CIT-8, retrouvée vers 1935 près de Louxor, a permis de faire une véritable analyse médicale. Mise au jour dans la nécropole thébaine de Deir al-Bahari et conservée au Caire, CIT-8 est une inconnue qui reposait dans la chambre funéraire consacrée à Senmout, l'architecte de la reine Hatshepsut, 1479 à 1458 avant notre ère, et à ses proches. Selon les notes du Metropolitan Museum of Art de New York, dont une des équipes a réalisé la fouille à l'époque, CIT-8 se présentait entouré de bandelettes, disparues depuis, yeux fermés et bouche grande ouverte. Dissection virtuelle. Pour comprendre l'origine de cette terrible expression, Sahar Salim et Samia El Mergani, respectivement radiologues à la Faculté de médecine de l'Université du Caire et membres du tourisme et des antiquités, ont tenté d'en savoir plus sur l'état de santé et les conditions de la mort de CIT-8. La momie a ainsi été disséquée numériquement en utilisant la tomographie assistée par ordinateur. Cette technique permet de découper virtuellement un objet en tranches pour l'étudier sous toutes ses coutures sans l'endommager et de reconstituer son image en 3D. Des outils complémentaires, comme la diffraction au rayon X, ont aussi permis d'étudier peau, cheveux et perruques en feuilles de palmier. Résultat, des traces de produits d'embaumement, comme de la coûteuse régine de genévrier importée, montrent une momification réalisée avec soin. Les analyses révèlent aussi la présence peu commune de viscères, ce qui, pour les autrices de l'étude, contredit la croyance traditionnelle selon laquelle leur non-retrait signifiait une mauvaise momification. Une interprétation confirmée par l'égyptologue Annie Perrault. Durant les 3000 ans où elle est pratiquée, la momification évolue. Il n'y a pas une manière unique de faire, et chaque atelier d'embaumeur peut même tester de nouvelles techniques, observe cette chercheuse de l'Université d'archéologie et histoire de la Méditerranée et de l'Égypte ancienne à l'Université Montpellier III, en France. Et la bouche grande ouverte alors? Pour les chercheuses, l'expression serait le résultat d'un spasme dit cadavérique, provoqué et figé par une douleur ou une émotion intense au moment du trépas. Une interprétation qui fait débat, notamment chez les médecins légistes. Pour l'archéologue et paléopathologiste français Philippe Charlier, les spasmes au moment de l'agonie sont connus, mais s'ils restent figés, c'est chaque fois lié à une cause extérieure. C'est le cas d'une momie exposée à Istanbul, par exemple. Le tétanos a provoqué un spasme musculaire figé par la rigor mortis, dit-il. La rigor mortis, ou rigidité cadavérique, est le phénomène de rigidification du corps qui survient quelques heures après le décès. Les muscles se relâchent habituellement dans les 48 heures avec l'arrivée de la décomposition, sauf si cette dernière est empêchée. Dans le cas de la momie d'Istanbul, ce sont les soins d'embaumement qui ont fixé la posture, précise l'expert. Ainsi, à ce jour, le concept de spasme cadavérique provoqué et figé par la douleur n'est pas validé sur le plan scientifique. De plus, l'imagerie n'a mis en évidence ni indice de maladie grave, ni trace de mort violente chez CIT8, qui souffrait tout au plus d'une légère arthrose de la colonne vertébrale. Excès d'interprétation? Et si la momie ne hurlait tout simplement pas? Les embaumeurs n'ont peut-être simplement pas eu l'occasion de fixer sa mandibule. Ou bien la bouche de CIT8 s'est-elle rouverte au fil du temps? Voilà qui semble probable en cas de modification dans l'environnement de la momie, notamment de l'hygrométrie. Si la publication ne résout pas l'énigme, dans tous les cas, elle illustre notre capacité à imaginer un cri ou autre émotion là où il n'y a probablement qu'une posture anatomique. Pour Patrice Georges Zimmermann, archéologue et collaborateur du groupe de recherche en sciences forensiques de l'Université du Québec à Trois-Rivières, c'est que la momie n'est pas un cadavre comme un autre. Alors que d'habitude la mort est cachée à nos yeux, la momie représente le cadavre que l'on peut voir. On peut donc avoir l'impression que ce mort est toujours parmi nous et qu'il peut encore souffrir. C'était « La momie hurlante est-elle morte dans la douleur? » un texte de Natasha Schadauer, paru le 21 janvier 2025 dans Québec Science.